Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Nico Kalambay.
La Gécamines ne produit pas depuis un temps et ses agents croupissent dans la misère puisqu'un payé depuis deux mois. Le président de l'intersyndicat de la société sollicite l'implication du chef de l'État. Libération des 74 pêcheurs congolais gardés prisonniers en Ouganda. Ces Congolais ont pu bénéficier d'une mesure de grâce signée samedi dernier par le président ougandais Yoweri Museveni. L'ONG CIMUF, Synergie des médias d'Ouvira et de Fizi, plaide pour une assistance humanitaire aux médias qui travaillent dans un contexte de crise humanitaire à Ouvira. Le coordonnateur de cette ONG est l'invité du journal. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de l'intersyndicale de la Gécamines tire la sonnette d'alarme et plaide pour l'implication du chef de l'État pour sauver la Gécamines. D'après Kasongo Mwabisha, ce géant minier ne produit pas et ses agents vont accuser bientôt deux mois d'arriérés de salaire. Dans ces circonstances, l'apport de l'État congolais qui en est l'unique actionnaire est très attendu. On écoute Kasongo Mwabisha, joint au téléphone par Jean Gandou.
On ne produit pas, nous sommes en difficulté, il n'y a rien, il n'y a pas de fonds, il y a un blocage du côté finance, on n'a pas d'argent, tout est bloqué. Avec le Covid-19, il y a certains partenaires qui ne nous font plus confiance, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'entreprise, raison pour laquelle nous sommes dit, sans l'implication du chef de l'État, tout risque de s'arrêter. Le Covid-19 vient s'ajouter aux difficultés connues depuis le début de l'année.
Quelles sont ces difficultés?
Manque de financement. La Gécamines s'autofinance via certains contrat de partenariat. Mais à ce stade, nous pensons que même l'État congolais, qui est l'unique actionnaire, peut accompagner l'entreprise parce que ça ne plaira à personne de voir cette Gécamines être mise à genoux. Donc l'État congolais peut aussi y mettre un coup de pouce pour que la production puisse reprendre.
Nous pouvons nous protéger et protéger nos familles en nous lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon ou en nous désinfectant les mains avec une solution hydroalcoolique. C'est l'essentiel du message de la directrice de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique en ce 5 mai où est célébrée la journée mondiale de l'hygiène des mains. Pour elle, l'importance de la propreté des mains est plus que jamais d'actualité en cette période de la pandémie du coronavirus. Le condensé du message de la directrice de l'OMS Afrique dans ce message donc avec Jean-Pierre Elali Coco.
Selon Madame Machido Mwiti, l'hygiène de mains fait partie des mesures préventives de base pour toute une série de maladies, dont les Covid-19, au même titre que la distanciation physique, le respect des règles d'hygiène en cas de toux ou d'éternuement et la désinfection des surfaces. Et c'est dans le cadre de la riposte nationale, expliquait-elle, que plusieurs pays africains fournissent à titre gracieux de l'eau aux communautés pour permettre à un nombre accru de personnes de se laver les mains. La directrice de l'OMS Afrique indique que moins de 50% des foyers d'Afrique subsaharienne disposent d'installations de base pour se laver les mains à l'eau et au savon. Cependant, elle constate que dans le cadre de la riposte à la Covid-19, de plus en plus de points de lavage de mains sont mis en place avant de souligner la nécessité d'envisager des solutions à plus long terme pour élargir durablement l'accès à l'eau. Par ailleurs, le terme est retenu cette année, à savoir infirmier et sage-femme, les soins propres et sûrs, c'est entre vos mains, indique combien l'hygiène de mains est importante dans tous les milieux, particulièrement dans les établissements des soins de santé où sont dispensés des soins aux patients.
Restons à Kinshasa pour vous dire qu'une connexion Internet gratuite pour une durée de 6 mois et des équipements, c'est le don de la société Connect Africa RDC au secrétariat technique de riposte contre le coronavirus. La cérémonie de remise a eu lieu donc hier lundi à Kinshasa. Cette connexion Internet permettra au secrétariat technique de riposte d'être en contact permanent avec les provinces et les zones de santé de la ville de Kinshasa. Jean-Claude Chipama, directeur général de Connect Africa RDC, explique au micro de Richard Junior Kamunga.
Quels sont les bureaux qui vont être connectés à Kinshasa? Il s'agit du secrétariat technique, le bureau à l'INRB, l'INPS, Cotex, le bureau à l'Unikin, les zones de santé de Gombe, Kitambo, zone de santé de Mbinza Ozone, Limete, Lingwala, Barumbu, Kinshasa, Météo et Delvaux. Ces bureaux bénéficieront chacun d'un équipement donné gratuitement et d'une installation d'un forfait professionnel Pro 100 par site pendant 6 mois sans payer aucun frais. Donc nous sommes présents dans la RDC depuis maintenant 1 an et plus et nous voulons faire profiter non seulement à la population mais aussi au bureau qui s'occupe pour l'instant de la riposte contre le coronavirus. Connect Africa est une société de droit congolais qui permet à la RDC, aux entreprises, aux particuliers, aux communautés dans les milieux ruraux, également de profiter de l'Internet haut débit à des tarifs très très compétitifs.
Et puis au Kasaï Oriental, clôture ce mardi de la formation des travailleurs sociaux pour soutenir en santé mentale et psychologique les cas identifiés nécessitant une intervention adaptée. La formation qui a sa 3e vague concerne 72 intervenants sociaux de la division provinciale des affaires sociales et 18 psychologues. Ce programme du Fonds des Nations Unies pour l'enfance rentre dans le cadre de la mise en place d'un système d'alerte communautaire des cas de protection de l'enfance liés au Covid-19. Le chef de bureau de l'UNICEF Kasaï Oriental, Séraphin Pétello, précise le rôle de ces travailleurs sociaux. Il est au micro d'Esther Dalafine.
Nous savons que le Covid-19 a des conséquences sur le plan psychologique et émotionnel des enfants et des adolescents, mais aussi toutes les mesures qu'on est en train de mettre en œuvre pour, dans le cadre de la prévention aussi, a des conséquences sur la psychologie et l'aspect émotionnel des enfants et des adolescents. La séparation des familles, parce que peut-être qu'un parent est bloqué quelque part, les enfants sont restés, et ça joue sur leur psychologie, ça joue sur leur état émotionnel. C'est comme ça que nous sommes en train de former ces acteurs sociaux pour qu'ils puissent nous aider dans le suivi et dans les alertes qu'on peut avoir au niveau communautaire pour la prise en charge psychosociale des enfants et des adolescents.
12h06 à Kinshasa, ce journal se poursuit depuis le début de l'épidémie du Covid-19 déclarée le 10 mars 2020. Le cumul est de 705 cas confirmés. Au total, il y a eu 34 décès et 90 personnes guéries, 149 cas suspects en cours d'investigation, 23 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 5 nouvelles personnes sorties guéries, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, 516 patients en bonne évolution, 121 échantillons testés, 92 patients confirmés, vu sur les 101 trouvés à la prison militaire. Militaires de Ndolo sont classifiés bénins ou légers. Sur les 9 restants, 3 patients sont pris en charge en dehors de la prison, un milieu hospitalier. Les 7 provinces touchées sont Kinshasa avec 675 cas, Haut-Katanga 10 cas, Congo Central 6 cas, Nord Kivu avec 7 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 1 cas. Mesure de gratuité d'eau et d'électricité du chef de l'État, la décision pour rappel a été prise pour alléger les difficultés de trésorerie de la population en cette période de crise due à la pandémie du Covid-19. À Matadi, une certaine confusion a régné au sein de la population à ce sujet. Hier, devant la presse, le ministre provincial du Congo central, en charge de l'énergie, a levé l'équivoque. D'après lui, cette gratuité concerne les mois d'avril et de mai 2020. Au Nord Kivu, je le disais en titre, les 74 pêcheurs congolais restés prisonniers en Ouganda entre 2018 et 2019 sont de nouveau libres. Selon la Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard, FECOPEIL, ils ont pu bénéficier d'une mesure de grâce signée samedi dernier par le président ougandais Yoweri Museveni. Cependant, bien que libres en Ouganda, ces pêcheurs ne peuvent pas encore rentrer en RDC, déplore la FECOPEIL. Cela suite à la fermeture des frontières pour raison de Covid-19. Bernard Danyangi.
La grâce présidentielle a rendu la liberté à ces pêcheurs et le résultat des démarches diplomatiques menées au niveau de Kinshasa, combinées à des plaidoyers des organisations locales des pêcheurs œuvrant sur le lac Édouard, dit le secrétaire général de l'ONG FECOPEIL. Josué Mukura déplore cependant que ces pêcheurs ne puissent pas rejoindre directement leur famille en RDC suite à la fermeture des frontières pour raison de Covid-19. Il plaide ainsi pour une intervention du gouvernement congolais.
Nous félicitons les gouvernements congolais et toute autre personne qui ont fait des contacts dans le processus de libération des non-pêcheurs. Aussi, nous demandons à ce que le gouvernement congolais entre en contact avec le gouvernement ougandais pour donner passage libre à ces pêcheurs au niveau de la frontière de Kasindi.
Rappelons que la multiplication des patrouilles lacustres des marins ougandais sur le lac Édouard entre juillet 2018 et fin 2019 avait conduit à des arrestations successives des plus de 400 pêcheurs congolais. Parmi ceux-ci, au moins 104 avaient été condamnés à 6 mois et plus de 3 ans de prison. Les 74 pêcheurs qui étaient détenus dans les prisons ougandaises de Katwe et Mubuku dans le district de Kasese sont les derniers à bénéficier de cette libération collective après d'autres vagues de libération depuis le début de cette année, affirmaient nos sources. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Kapi.
Rendons-nous à Mbandaka où l'archevêque de Mbandaka Bikoro a justifié ce lundi le retard que connaît la réhabilitation du stade de Bakusu sur financement de la présidence de la République. À cet effet, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, avait remis à Monseigneur Ernest Ngboko une enveloppe de 50 000 dollars. C'était lors de la prise de possession canonique le 26 janvier 2020. Des sportifs mbandakais se demandent pourquoi les travaux n'ont pas démarré jusque-là, alors que ce moment de confinement reste plutôt favorable, souligne-t-il. Écoutez, Monseigneur Ernest Ngboko, qui justifie ce retard au micro de Paul Richard Malingel.
Comme vous le savez, certainement c'était 50 000 dollars. Et vous avez suivi, lorsqu'on avait communiqué ces montants à la population, nous avons dit que la première chose serait donc de constituer une commission mixte. Alors on a procédé d'abord à élaborer un devis. Alors quand ça a été fait, on a vu que le devis était vraiment élevé. Comme vous pouvez vous imaginer vous-même, un stade ne peut pas être réhabilité avec 50 000 dollars. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le secrétaire chancelier est à Kinshasa. C'était tout justement pour aller voir le directeur du cabinet du président de la République pour lui présenter la situation actuelle. Alors jusque-là, je crois que la solution n'a pas encore été trouvée. Après donc ce confinement que nous connaissons, les vols réguliers vont reprendre. Lui-même, il sera ici, il fera une conférence de presse pour pouvoir fixer la population. S'il n'y a pas d'ajout, c'est-à-dire on va encore réunir la même commission mixte pour pouvoir voir avec ces 50 000 qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il faut retoucher donc la pelouse? Est-ce qu'il faut mettre la peinture? Comme ça, bon, on termine avec ça une fois pour toutes.
Okapi Radio. Okapi.
Actualité internationale.
Kevin Clément, légionnaire français de 21 ans, a été tué au combat lundi 5 mai lors d'une opération de lutte contre les groupes armés djihadistes au Mali, a indiqué la présidence française. Deuxième perte humaine en 4 jours dans les rangs de la force française au Sahel. Le soldat appartenait également au 1er régiment étranger de cavalerie de Capienne. Une partie des Kenyans refusent de se faire tester. Ils craignent évidemment d'être déclarés positifs au coronavirus et donc en danger de mort. Mais ils refusent donc, et leur cas est léger, ils risquent de se retrouver en quarantaine après avoir eu des conséquences sociales. Fin mars, les autorités avaient ouvert une cinquantaine des sites, écoles, hôtels, auberges, des jeunesses. Or, ce sont les Kenyans qui doivent payer les frais de prise en charge de 20 à 100 dollars par jour, une fortune pour beaucoup d'entre eux, notamment les travailleurs journaliers.
L'invité.
Notre invité est Aubert Mouibakacha de l'ONG CIMUF, Synergie des médias d'Ouvira et de Fizi. Cette plateforme des médias a, dans un communiqué publié la semaine dernière, plaidé pour une assistance humanitaire également aux médias qui travaillent dans un contexte de crise humanitaire à Ouvira. Ces journalistes doivent s'investir dans la prévention et la sensibilisation de lutte contre la déforestation des collines et montagnes surplombant Ouvira, contre les constructions anarchiques et les éventuels conflits parcellaires après les inondations qui ont détruit plusieurs habitations. On écoute le coordonnateur de la synergie des médias d'Ouvira et de Fizi, CIMUF, dans cet entretien avec Fiston Goma.
Aubert Mouibakacha, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur de la synergie des médias d'Ouvira Fizi, CIMUF, maison de la presse. La ville et le territoire d'Ouvira traversent les moments difficiles suite aux inondations causées par les pluies diluviennes. Qu'est-ce que les radios locales, les radios membres de votre synergie font concrètement pour accompagner la population?
Lorsque les catastrophes naturelles se sont vraiment aggravées, grâce à nos radios, les habitants d'Ouvira se sont mobilisés et continuent à se mobiliser aujourd'hui et se constituent même en secouristes, chose qui permet même de réduire sensiblement les dégâts et les pertes en vies humaines au moyen des opérations de secours organisées par les habitants. Grâce à nos journalistes, la population suit en direct sur nos radios différents reportages et commentaires sur divers aspects ayant trait aux catastrophes naturelles, mais aussi grâce au travail des journalistes, les bilans des dommages sont régulièrement connus et communiqués à la population. Grâce aussi à nos radios, les habitants expriment leurs voix, besoins et les autorités au niveau national, provincial, mais aussi local répondent à travers nos micros aux préoccupations de ces derniers. Il faut aussi souligner que grâce à nos radios, nous parvenons donc à souder davantage notre solidarité pour Ouvira, à témoigner notre amour envers les familles des victimes.
Est-ce que les radios rencontrent aussi des difficultés en cette période de crise humanitaire et sanitaire?
Nous avons des difficultés énormes en tant que médias, en tant que radio, sur l'accès aux sources d'informations liées aux assistances destinées aux sinistrés. Vous savez qu'il y a une partie de la population qui était descendue dans la rue pour réclamer la totalité de l'enveloppe qui était destinée aux sinistrés d'Ouvira. Mais nous ne sommes pas informés suffisamment en tant que médias sur les types d'assistance. C'est difficile aussi de donner une information exacte à nos auditeurs, raison pour laquelle ils sont toujours dans la confusion. Et c'est pour cette raison qu'il y en a même qui descendent dans la rue pour réclamer, je ne sais pas, telle ou telle autre assistance. Nous pensons que les autorités pouvaient nous faciliter, et même ceux qui donnent les assistances pouvaient nous faciliter vraiment à l'accès à l'information irrelative. Comme ça, les sinistrés sont informés régulièrement et de manière correcte et exacte. Il y a des sinistrés qui sont dans des familles d'accueil, qui ne sont pas aussi des fois informés des assistances qu'on est en train d'accorder par-ci par-là dans différents sites des sinistrés. Que tous ceux-là qui viennent avec leurs assistances, que ce soit les autorités, que ce soit les humanitaires, qui puissent au moins impliquer les médias pour que nous puissions avoir aussi des informations. Que ce soit du côté de la population pour canaliser les doléances, mais aussi des réponses appropriées aux préoccupations des sinistrés. Donc nous demandons à la population de maintenir un peu leurs émotions. Nous, en tant que radio, on ne peut pas donner solution pratique à leurs préoccupations, à leurs problèmes. Donc, quand ils interviennent, ils doivent comprendre et ne pas tomber dans ces diffamations, s'en prendre aux personnalités à travers nos radios. Nous, en tant que médias, nous sommes aussi dans une zone sinistrée. D'une manière ou d'une autre, nous sommes touchés aussi, de manière indirecte. Tu peux voir les conditions dans lesquelles travaillent les radios, ce sont des conditions de vulnérabilité accrue, vous ne pouvez pas comprendre. Mais nous avons vu à l'époque de AFDEL comment certains secteurs dans de telles crises étaient assistés, même en Food for Work, on a vu. La même chose aussi peut se faire même pour les médias. L'assistance en Food for Work pour aider ces journalistes qui sont au chevet des sinistrés à tout moment. Il faut voir comment les journalistes étaient en train de plonger presque dans l'eau, uniquement pour aller voir les gens qui se trouvaient dans des décombres afin d'informer la population.
Avez-vous un appel à lancer aux bienfaiteurs qui vous écoutent en ce moment?
Je crois que les catastrophes que nous sommes en train de connaître, cette question de déforestation anarchique, les constructions anarchiques. Pour le moment, il y a des parcelles qui ont été rasées complètement, il n'y a même pas de repères. Celui qui viendra reconstruire dans sa parcelle, il y aura toujours des conflits entre lui et les voisins. Nous, en tant que médias, nous pouvons beaucoup travailler dans ce sens là-bas, en termes de prévention des conflits, sensibilisation. Donc nous lançons l'appel aux différents partenaires humanitaires qui viennent ici intervenir. Il faut voir aussi d'autres acteurs, spécifiquement les médias, un secteur important pour aider vraiment la communauté dans ce sens-là.
Merci beaucoup, messieurs.
Je vous en prie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Alain Goy, la mise en onde. Noëlla Luzitu Kabambi était à la coordination. Le journal a été supervisé par Pele Kipelamondo. Nico Kalambay, c'est moi. Bonne suite de nos programmes.